tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour, nous sommes ravis d'être sur Radio Grenouille aujourd'hui. Donc une émission des philosophes publics, et il nous a semblé important aujourd'hui de réfléchir avec vous sur la prison, puisque le collectif des philosophes publics intervient depuis une année à la fois au Baumettes, donc à la prison des femmes, puisque à la prison des hommes existe déjà tout un dispositif avec des enseignants de philosophie, alors qu'à la prison des femmes, il n'y en avait pas, et aussi à l'EPM, donc à l'établissement pénitentiaire des mineurs, où aussi nous menons une série d'ateliers sur des questions philosophiques. Donc cette expérience vivante nous a poussé aussi à nous intéresser à la prison d'un point de vue théorique. Et aujourd'hui, c'est sans doute de ça, de cet écho entre une expérience et des questions plus philosophiques que nous voudrions dont nous voudrions rendre compte. Donc nous sommes avec Marc, Monique et Louisa. On s'est dit que peut-être vous livrez comme ça les questions que la prison nous pose. Donc je sais pas, Marc, tu veux commencer à...
Si tu veux, oui. Bon, la prison, elle nous interroge, c'est vrai, par la pratique, hein, puisque ça fait quelques temps qu'on essaie d'y philosopher avec les détenus. Elle nous interroge aussi d'un point de vue politique et du point de vue des discours qui sont tenus sur la prison. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans notre société, c'est qu'on parle énormément de la prison. Les hommes politiques en parlent beaucoup, notamment dans cette période de campagne électorale. Les médias en parlent. Il y a un discours quand même assez dominant que les problèmes de notre société seraient réglés par le fait de construire de nouvelles prisons, d'incarcérer de plus en plus. Donc ça, c'est un discours très dominant. Chacun a l'air d'être expert, finalement, en question pénitentiaire. Et par ailleurs, il y a aussi un discours plus scientifique, plus fondé sur des faits, sur des analyses, des statistiques, etc., qui est très peu audible. Et le paradoxe, ce qui me semble très paradoxal et ce qui me semble poser problème à la fois d'un point de vue philosophique et politique, c'est que ceux qui sont finalement les moins informés sur la prison et ceux qui s'intéressent le moins à ce qui se passe vraiment, à la récidive, à ce qui favorise ou pas le passage à l'acte, etc., ce qui pourrait relever de l'efficacité, sont ceux qui sont censés, dans le discours dominant encore une fois, être les plus réalistes, les plus pragmatiques et qui sont vraiment dans le réel. Et que paradoxalement, ceux qui sont les mieux informés passent parfois pour des gens qui tiennent un discours parfaitement utopique, angéliste, etc. Et ça m'interroge sur finalement ce paradoxe entre un discours très informé qui passe pour être idéaliste et coupé du réel, et un discours finalement très peu informé qui passe pour être, lui, le discours du réel et le discours du pragmatisme.
Oui, comme si finalement la société civile ne voulait pas entendre, hein, ou refuser, on ne sait pas très bien pour quelle raison, le discours de ceux qui sont, hein, qui ont une expérience de la prison. Louisa, il me semble qu'il y a aussi une autre question.
Notre paradoxe aussi qu'on peut remarquer dans le rapport à la pensée que l'on a de la prison, c'est à travers la notion aussi de peine. Le prisonnier est emprisonné parce qu'on on le pense comme un sujet responsable de ce qu'il a fait et que donc il mérite, il y a l'idée de, donc, du mérite de la peine d'emprisonnement. Et donc on le voit comme un sujet responsable et par ailleurs, tout dans la prison est fait pour enlever la subjectivité de l'individu. Il est désubjectivisé, il est penser soit comme une chose, soit comme un animal, soit comme voilà comme un être à qui on enlève sa, soit comme un enfant et on lui enlève son autonomie. Donc il y a à la fois d'un côté une grande responsabilisation avec toute l'idée que il est là parce qu'il a un libre arbitre et que c'est donc à cause de ce libre-arbitre qu'il est emprisonné. Et de l'autre côté, on fait tout pour enlever ce libre-arbitre et ne pas cultiver ce libre-arbitre.
Monique, peut-être le dernier point qu'on voudrait aborder ?
Oui, toujours sur le sens de la peine, hein, parce qu'on nous dit souvent que le prisonnier paye en prison sa dette à la société, mais enfin, payer une dette, est-ce que ça implique tant de souffrance ? Et il est vrai que dans la punition, il y a pour nous donc le fait d'infliger une souffrance, hein, d'affliger. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à interroger, à savoir cette souffrance est-elle nécessaire et comment est surtout est-elle justifiée, hein, il semble qu'elle que l'idée d'infliger une souffrance imposer l'expiation d'une faute, ça soit une idée plutôt chrétienne qui relève plutôt du christianisme. Comment pouvons-nous aujourd'hui l'endosser dans nos sociétés donc très très largement sécularisées?
Très bien, donc peut-être on va reprendre ces trois points dans l'ordre, hein, tels qu'ils ont été prononcés. Donc le premier paradoxe, c'est effectivement pourquoi on ressent une sorte de refus d'entendre ces expériences carcérales. Peut-être que je peux proposer une piste qui est donnée par Didier Fassin, dans pas son dernier livre, mais son avant-dernier livre, qui s'appelle « L'ombre du monde ». Et qui est un travail conséquent, hein, 600 pages, sur une expérience qu'il a menée pendant 5 ans. Bon, s'il additionne les mois passés en prison, il y en a 7. Et il fait un retour d'expérience, hein, avec un point de vue sociologique. Et sa conclusion, c'est de dire que si on entend vraiment ces expériences qualitatives et non pas quantitatives, hein, donc pour lui, bon, les chiffres, bien sûr, sont importants, mais ils ne suffisent pas. Puisque l'éclairage ethnographique, c'est-à-dire partager la condition carcérale, débouche sur une conclusion inattendue, hein, à savoir que effectivement, il y a une humanité dans la prison, que c'est pas un lieu seulement, hein, d'importation. Qu'est-ce que serait un lieu d'importation ? C'est-à-dire que toute la violence dans la rue serait transposée comme ça dans la prison pour lui. Hein, il y a une violence de l'institution elle-même, c'est-à-dire qu'elle ajoute de la violence à la violence. Donc en montrant ça, il raconte plein d'expériences de solidarité, d'intelligence des prisonniers sur leurs propres conditions, d'un désir de formation, d'un désir de sortir de ce milieu, et dans la prison, rien n'est mis en place. Et donc si pour lui c'est inaudible, c'est parce que si on entend ce retour qualitatif d'expérience, nous serions obligés de remettre en chantier le sens, hein, de l'emprisonnement, le sens de la peine, et surtout, c'est le travail ciblé de Didier Fassin pour les peines très très courtes, c'est-à-dire 3 mois ou 6 mois, hein, c'est-à-dire des peines finalement qui punissent des actes, bon, beaucoup la consommation de cannabis, ou rouler sans permis parce qu'on n'a plus de points, mais ou même des vols de poules, hein, il raconte à propos de Rome. Donc si on entend toute cette humanité, on est obligé de repenser ensemble, démocratiquement, à quoi servent ces peines courtes, et est-ce qu'elles n'ajoutent pas une violence dont nous serions, nous, responsables, hein, c'est-à-dire non pas ceux qui sont emprisonnés, mais l'institution pour ces peines courtes, hein, je précise bien.
Oui, mais en fait, ce qui rend peut-être aussi inaudibles les discours un peu plus informés sur le monde carcéral, c'est qu'il y a aussi le discours électoral et électoraliste qui leur fait écran. puisqu'on a bien compris que ces derniers temps, aussi à cause d'un contexte de terrorisme, de peur collective, etc., le discours punitif et répressif a pris l'importance. Donc ça, c'est un fait, même si, encore une fois, bah, tu prenais l'exemple du cannabis, c'est quand même un exemple assez intéressant dans notre pays, hein, puisqu'on sait qu'on est un des pays qui a la législation la plus répressive et la politique la plus répressive en la matière, et qu'on est un des pays où il y a le plus de gens qui en consomment. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre le discours idéologique et l'efficacité, mais ce décalage, encore une fois, il est rendu incompréhensible par le fait que personne, enfin quasiment aucun homme politique en campagne ose vraiment dire ça aujourd'hui, parce qu'il sait que, enfin il sait, ou il croit savoir, parce qu'il y a aussi cette projection sur ce qu'on pense que pensent les autres, hein. Il croit que les autres, que les citoyens veulent entendre un discours plus répressif. Et c'est là aussi où les philosophes publics, peut-être, on a un rôle à jouer. Je crois que ce qui définit notre travail, c'est non seulement, bon, mais quand on va en prison aussi, de penser l'institution avec les détenus, on y reviendra, hein, c'est tout aussi un lieu de prise de conscience de ce qu'on fait là et de pourquoi on est là. Mais il y a aussi, il me semble, un travail de pédagogie croisée avec les gens dans des débats publics, etc., sur finalement qu'est-ce que c'est que la prison, qu'est-ce qui s'y passe vraiment, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et là, ça revient à ce que disait Monique sur le sens de la peine.
Oui. Oui, mais au-delà encore, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt formidable quand même, hein, d'une classe politique à ne pas mettre l'accent sur ceci, que la prison est le miroir des inégalités sociales. Les sociologues font un travail formidable, hein, en ce sens qu'ils mettent en évidence, hein, ce rapport entre les inégalités socio-économiques et puis la réalité de l'incarcération, puisqu'en prison, donc, ce sont les classes les plus défavorisées, les plus populaires, qui se trouvent très très majoritairement représentées. Or, ce que la sociologie met aussi en évidence, c'est ceci, que les classes largement favorisées, se distinguent par leur peu de soucis d'appliquer la loi, par leur peu de soucis d'avoir des comportements légalistes. Donc on aurait aussi là une marque de distinction sociale.
Louisa,
pour rebondir sur ce que vous dites et en particulier ce que disait Marc, je crois que, bon, il y a évidemment la question électorale, etc., mais il y a aussi quelque chose de plus profond, je pense, au niveau de la société elle-même, c'est que la prison, c'est vraiment, c'est l'autre, quoi, c'est pas nous. C'est-à-dire, il y a cette et je pense qu'il y a la même problématique par rapport à la folie ou par rapport à la psychiatrie. C'est-à-dire que pour que les choses puissent vraiment changer, il faut que, au niveau de la société elle-même, on comprenne que la prison n'est pas le lieu de l'autre, mais le lieu où chacun de nous pourrait y être, où des proches peuvent y être, et pas seulement ceux qui ne sont pas comme nous et qui, par conséquent, méritent ce qui leur arrive. Et du coup, on est dans un lieu, un non-lieu, un espace d'exclusion, en dehors de la société. Enfin, c'est l'autre et celui qui est en dehors d'eux, alors que... Tout part de... Et du coup, pour faire le lien avec notre travail en tant que philosophe public, c'est-à-dire ce qui importe, c'est la rencontre. C'est le fait que ce lieu qui est un lieu qui semble être un non-lieu, hein, un espace rejeté, ignoré, un espace aveugle, en fait, non, c'est un espace où on peut rentrer, on peut parler, on peut dialoguer, et que l'autre, c'est nous. Et je crois que ça, c'est vraiment la base, hein, de tout, je pense.
Juste un petit point, hein, c'est l'autre, mais pas pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire que dans les classes les plus défavorisées, il y a une personne sur 200 qui est en prison, hein, ce qui est un chiffre tout à fait considérable. Et s'il n'y avait pas autant peut-être de ségrégation sociale, nous le verrions. Hein, nous ne le voyons pas.
Je voudrais peut-être juste donner quelques chiffres très très rapides. Hein, c'est donc la seconde moitié du XXe siècle qui marque le retour du carcéral, hein, en France et au cœur de la pensée pénale. Donc juste les chiffres, il y a 20 000 prisonniers en 1955, 58 000 en 2005, 68 000 en 2014. Hein, plus 12 000 qui sont dans des formes nouvelles, hein, avec des bracelets électroniques ou en semi-liberté, ce qui représente 1 pour 1 000. Donc aux États-Unis, on en est à 1%, et en France à 1 pour 1000. Et effectivement, hein, comme le dit Monique, un homme sur 200 dans notre société, dans la classe des 20-30 ans, est en prison. Et parmi ces hommes, c'est 85% populaires ou Fassin va jusque dire des quartiers de relégation. Juste encore un petit mot pour Louisa. Quand on va au Beaumet ou à l'EPM, alors l'EPM peut-être, il y a encore une distance puisque ce sont des jeunes gens, comme il peut y avoir dans nos lycées, hein, évidemment qu'il y a une différence d'âge, etc. Mais en tout cas, au Beaumet, dans ces ateliers avec les femmes, bon, c'est une expérience de la communauté, d'humanité. Il y a quelque chose de l'ordre de la condition, hein, qui surgit, dans laquelle on n'a rien à faire. Elle est immédiatement disponible à la réflexion philosophique. Et ce qui s'y produit, ce qui s'y passe, c'est la nécessité de penser, ou en tout cas que la pensée est absolument vitale où qu'on soit dans la société. Et donc là, on retrouve exactement ce que tu dis, Louisa, la société ne s'arrête pas à la porte des prisons, tout comme la pensée ne s'arrête nulle part.
Ouais, c'est très important ça, parce que c'est vrai que dans le vécu qu'on a de ces rencontres, ce que tu dis là, c'est-à-dire, et même à l'EPM ça le fait aussi, c'est l'idée que quand on philosophe avec les détenus, ben, au bout d'un moment, en fait, on oublie en fait que c'est des détenus, parce que tout simplement ça devient des sujets pensants, et en fait le cadre et le lieu, etc. Et comme, de même que quand on s'adresse à nos élèves ou en classe, on ne s'adresse pas à nos élèves en tant qu'ils sont une fille ou un garçon, riche ou pauvre, noir ou blanc, etc. Ben de même, c'est vrai que ce qui est assez magique dans ces moments de pensée collective, c'est qu'on se réinstitue tous comme sujet pensant. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et ça rejoint aussi ce que disait Louisa, hein, sur l'idée que c'est l'autre. Je veux dire, c'est aller à la rencontre aussi de ce public-là, c'est se rendre compte de l'universalité de la condition humaine et l'universalité de la possibilité de se poser des questions et d'avancer. On prendra peut-être tout à l'heure des exemples un peu précis, d'ailleurs, ceux dont on peut parler, puisqu'on a parlé de la liberté, notamment à l'EPM, il n'y a pas longtemps, avec les jeunes, d'un point de vue philosophique. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Monique aussi tout à l'heure, sur la prison comme miroir des inégalités sociales. Alors, on sait qu'en France, on a des institutions qui non seulement prennent acte des inégalités sociales, mais qui les reproduisent et qui les accentuent. Hein, bon, la prison, l'école, malheureusement, a aussi cette fonction-là. Et moi, ce que j'ai noté de manière empirique comme ça, mais qui a été confirmé par des études que j'ai lues, c'est que paradoxalement, les gens qui sont le plus victimes des inégalités n'en ont pas conscience. Quand on discute avec les élèves, par exemple, en classe, et les élèves qui échouent souvent disent, en fait, on mérite d'échouer. On échoue parce qu'on est moins intelligent, parce qu'on a moins travaillé, sans avoir du tout conscience des déterminismes sociaux qui pèsent largement sur les parcours scolaires. Et en prison, c'est un petit peu pareil. Il n'est pas question pour nous d'aller voir les jeunes détenus en leur disant vous êtes des innocents et vous devriez être dehors. Hein. C'est pas, on n'a pas à tenir ce discours-là, d'abord parce qu'on est dans une institution, on accepte d'y être. Donc de fait, on accepte quand même qu'elle existe et qu'elle est punie. Donc, et puis ça serait, je pense, contre-productif aussi de les ramener simplement à un statut de victime. Mais notre rôle, c'est quand même aussi de leur faire prendre conscience qu'il y a des causes sociales, des déterminismes, le mot peut-être un peu fort, mais des causes sociales qui fait qu'on se retrouve à 17 ans en prison ou pas. Et ça, ils n'en ont pas conscience, paradoxalement. Ils disent, on a fait une bêtise, on est puni et c'est normal. Et tout ce poids, en fait, des inégalités sociales, paradoxalement, plus on le subit et moins on en a conscience. Et ça, c'est vraiment un enjeu politique, je trouve, aujourd'hui.
Et on retrouve, du coup, la problématique qu'on a posée au départ. C'est en fait toute l'idéologie qui est liée à cette notion et de libre arbitre et de mérite et de responsabilité, qu'il faut repenser. C'est pour ça que la philosophie nous interpelle dans cette elle joue un rôle dans cette problématique sociale, parce que c'est ça qu'il faut essayer de déconstruire et de à la fois de sauver l'idée d'un sujet qui se reconstruit, qui est vivant et qui est en mouvement et qui peut se reconstruire, mais aussi d'arrêter les simplifications sur la responsabilité, le mérite et le libre arbitre, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est un truc qui est essentiel, il me semble, dans notre rôle, en tant que philosophe.
La difficulté, c'est quand même que la modernité se construit aussi donc, en érigeant hein, cette figure du sujet libre et responsable. Alors, c'est une figure juridique, hein, figure juridique de la personne, hein, le sujet libre et responsable de ses actes, et que les cours de justice donc, sont actives sur ce principe. C'est-à-dire que si l'on fait sauter ce principe de la pleine responsabilité donc, du sujet, la peine devient impossible à infliger. Hein.
Et même si on fait un tout petit pas en arrière de ce que tu dis, hein, Monique, même si c'est évidemment ça à quoi on doit, enfin ce qu'on doit questionner à la fin, mais même tel que toujours ces maisons d'arrêt, donc je répète 40% de prévenus dans les maisons d'arrêt, donc en attente de jugement, et cette attente peut durer 4 ans. Hein, donc voilà, bon, Fassin raconte l'histoire d'un homme qui est accusé de viol, qui est obligé de faire des groupes de parole sur que, et à la fin en fait il est acquitté, c'est-à-dire que pendant 4 ans hein, il a côtoyé des gens bon, qui sont enfermés pour des questions de viol avec des problématiques particulières alors que lui n'a pas encore été jugé, et en fait tout dans le jugement démontre que ça ne peut pas être lui puisque la dame a dit qu'il avait une voiture, qu'il parlait très bien français et cet homme-là a un accent, il n'a pas de voiture à lui, etc. Bon, mais donc cette machine carcérale pour les peines courtes, donc 40% de prévenus et 60% des peines de moins de 3 ans dans les maisons d'arrêt, il n'y a rien pour redonner, pour se réapproprier une histoire, une parole, une subjectivité. Donc les soins hein, existent seulement depuis 1994 et les soins dans la prison dépendent de l'hôpital, alors qu'avant ça dépendait de l'établissement pénitentiaire lui-même. Mais les attentes de soins pour un psychologue, c'est minimum 6 mois, alors qu'on sait que souvent ce sont des peines très courtes, 3 mois ou 6 mois. Évidemment, les parloirs, bon, ça fonctionne à peu près, c'est une fois par semaine, mais il n'y a aucune possibilité de voir sa compagne, de voir ses enfants, pas dans toutes les prisons, mais dans 8 prisons sur 10, de façon un petit peu intime. Et les détenus ou les prévenus ont une parole extrêmement lumineuse, en disant c'est pas possible, à un moment c'est pas possible, moi j'avais envie d'avoir un enfant, j'avais envie d'emmener mes enfants à l'école. Enfin, il y a toute cette dimension d'une volonté de retrouver qui est rendue impossible en prison. Voilà, et je raconte juste une histoire, un homme qui purge ses 10 mois, en sortant le jour même, en sortant de prison, on lui dit qu'il y a une vieille peine qu'il n'a pas exécutée, qui datait d'il y a 5 ans, alors qu'entre-temps, il s'était quand même un petit peu reconstruit. Donc on lui dit, vous retourner pour 10 mois et il y a eu un suicide en prison. Donc aussi, hein, peut-être qu'en France, le taux de suicide est le taux le plus élevé du monde hein, par rapport aux États-Unis. Voilà, donc ça questionne sur pourquoi la machine, à un moment, elle l'empêche, alors même que si on punit, c'est parce qu'on est persuadé qu'il y a un mérite à être puni, elle empêche cette possibilité de sortir autrement de prison.
Je crois qu'on pourrait du coup... Il y a un philosophe, Michel Foucault, qui a posé une question très, très, très simple et très claire, hein, c'est pourquoi l'échec des prisons ? C'est-à-dire qu'en fait, on le sait très bien que les prisons ne permettent pas une réinsertion, n'arrêtent pas la criminalité. Et pourtant, voilà, que c'est vraiment le lieu de l'échec. Et donc, pourquoi cet échec ? Et donc, Michel Foucault montre qu'en réalité, le but n'est pas utilitaire, quoi. Le but n'est pas d'améliorer. Le but est, dit-il, de distinguer, de distribuer, de différencier les différents illégalismes, dit-il, afin finalement d'assurer un mécanisme de domination. Hein. C'est-à-dire que le but, il faut arrêter de penser l'idée d'une utilité et il faut penser peut-être les choses autrement et les voir telles qu'elles sont.
Oui, en même temps, la difficulté quand même, c'est de dissocier, me semble-t-il, contrôle et vengeance. Parce que si la prison aujourd'hui contrôle, et si elle s'exerce comme une institution donc, qui vise à contrôler des classes jugées dangereuses, des classes populaires qui sont jugées dangereuses, elle est aussi l'institution qui inflige la souffrance. Et donc, il y a quand même toujours, hein, dans dans l'idée ou dans l'opinion que punir, c'est justement infliger une souffrance. Et ça me semble quand même digne d'être considéré. Moi, j'arrive pas à articuler correctement dans mon esprit, en tout cas, ces deux dimensions. C'est-à-dire que soit je vois la prison comme l'exercice d'un contrôle social, soit je vois la prison comme le lieu de la vengeance, donc lié à un populisme pénal, et je n'arrive pas à articuler correctement les deux. Je ne sais pas si vous voyez ma difficulté.
Juste pour aller dans ce sens-là, on peut remarquer le paradoxe d'une société actuellement où on met en avant la notion de dangerosité et où on va donc mettre en prison ou faire des rétentions préventives parce qu'on suppose qu'il y a dangerosité de la part de quelqu'un. Or, s'il y a dangerosité, c'est qu'il n'y a pas responsabilité puisque l'acte n'a pas encore été commis. Et de l'autre côté, cette vision très responsabilisante et très liée à la punition comme méritée. Donc, il y a cette espèce de mélange et de paradoxe entre l'idée on élimine le criminel avant même qu'il fasse l'acte d'une certaine manière parce qu'il est considéré comme dangereux et de l'autre l'idée qu'il mérite sa peine.
Oui, moi pour terminer, puisque l'émission est bientôt finie, je voudrais juste rajouter que selon moi, l'important n'est pas non plus de diluer toute idée de responsabilité individuelle, puisque la responsabilité individuelle, c'est aussi la dignité. C'est aussi considérer quelqu'un comme n'étant pas simplement le résultat de déterminismes sociaux qu'il subit, ou de passion, ou d'aliénation qu'il subit, mais lui laisser la capacité d'être un sujet. Donc s'il y a un sujet, à mon avis, qui est important à aborder en prison, c'est vraiment celui de la liberté. Parce que tu disais, Monique, le sens de la peine, est-ce qu'on met les gens en prison pour se venger? Est-ce qu'on met les gens en prison pour les faire souffrir? Est-ce qu'on met les gens en prison aussi pour les aider à se reconstruire, à se reconstituer comme sujet? Donc si on rêve un peu, là, puisqu'on a aussi le droit, on pourrait imaginer justement la prison comme un lieu qui pourrait aider, entre autres par la philosophie, par ailleurs, mais avec d'autres approches aussi, aider l'individu à se désaliéner. C'est-à-dire à ce qu'on essaie de faire, nous, finalement, en philosophant, c'est-à-dire à mettre à distance ses propres passions, ses propres aliénations, ses propres influences néfastes, etc., et pour pouvoir construire une vraie liberté qui ne soit pas la possibilité de faire n'importe quoi ou de faire ce dont on a envie prioritairement, mais surtout d'être capable de se constituer comme un sujet libre, autonome, capable donc de se fixer ses propres règles, ses propres objectifs.
Marc, moi je suis d'accord avec toi, mais il me semble que ça marche dans ce qu'on appelle les maisons de peine, donc c'est-à-dire dans les peines très longues où il y a des récits, hein, comme ça, qui sortent de prison avec des témoignages de reconversion. Mais je crois que vraiment ce que tu dis est impossible d'un point de vue matériel pour les peines courtes.
Qui sont contre-productives, c'est pour ça aussi qu'elles sont contre-productives.
Voilà, qui sont totalement contre-productives et qui empêchent toute façon, enfin toute possibilité d'une réflexivité. Hein, par exemple, si c'est un endroit très très viril, la prison, il n'y a aucun lieu où la virilité peut se donner comme objet de réflexion, ce qui serait une occasion. Et je crois aussi que c'est parce qu'on tourne toujours les détenus vers leur passé en France et non jamais vers l'avenir. Si on tourne un individu vers l'avenir, bien entendu, ce qu'on juge, c'est un acte et non pas un être. Et aujourd'hui, il semblerait que ce qu'on juge, c'est un être et sa place dans la société.
Oui, et puis on ne leur permet pas de payer ce qui devrait être le paiement d'une dette. Enfin, ça semble absolument impossible, puisqu'ils sont condamnés à l'inaction, ils sont condamnés à une oisiveté donc, qui est dépersonnalisante, et ils sont condamnés donc, à ne rien faire de leur vie.
Donc en fait, c'est bien la notion de sujet qui doit être repensée à travers la prison, finalement.
Ou à travers la peine, puisqu'on peut aussi penser un espace punitif qui ne se réduise pas à l'espace carcéral. Je sais pas, Monique.
Oui, je voudrais juste dire que je ne voudrais pas qu'on corrèle nécessairement donc le crime et le châtiment. À savoir, l'histoire nous montre quand même qu'il y a une possibilité de dissociation du crime et du châtiment. Les ethnographes et les historiens nous montrent que tout crime n'appelle pas nécessairement châtiment, mais que le paiement d'une dette, c'est autre chose que la punition aussi.
Merci. Merci et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
à l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.